tout le monde. Est-ce que vous aimez les surprises? Ça dépend si elles sont bonnes ou mauvaises. Parfois, il y a de bonnes surprises. Aujourd'hui, on a avancé les horloges pendant la nuit. Il y aura des personnes qui vont venir dans environ 10 minutes. On espère qu'on leur fera grâce. Mais même si on a l'impression d'être un peu tôt à l'église ce matin, aujourd'hui je vais vous annoncer quelques bonnes surprises. C'est la fin de notre série dans le livre de Ruth et j'ai le plaisir de vous dire que ça se termine bien. Et on va voir un petit peu les détails de ce déroulement de la fin du livre de Ruth. Mais j'aimerais attirer votre attention sur les surprises dans ce livre qui vont être mises en évidence un petit peu par les derniers mots de ce livre. Mais aussi, en regardant un peu de manière globale, on va un peu faire le survol du livre, se rappeler certaines choses que nous avons vues en cours de route. Et sachez que vous pouvez toujours écouter les messages de cette série qui seront sur notre site et qui sont déjà sur notre site. Regardons alors le petit livre de Ruth, juste avant le livre de Samuel, si vous le trouvez dans votre Bible. Et je lis au chapitre 4, à partir du verset 13. Boaz épousa Ruth. Elle devint sa femme et il s'unit à elle. L'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte et elle mit au monde un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat. Que son nom soit célébré en Israël. Cet enfant sera ton réconfort et le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a mise au monde, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. » Naomi prit l'enfant, le serra sur sa poitrine et l'éleva. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi » et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la lignée de Pérets. Pérets eut pour fils Hetron, Hetron eut Ram, Ram eut Aminadab, Aminadab eut pour fils Nakhshon, Nakhshon eut Salmon, Salmon eut pour fils Boaz, Boaz eut Obed, Obed eut pour fils Isaïe, et Isaïe eut David. On va être surpris globalement en deux temps ce matin. D'abord, on va être surpris par qui est béni. Surpris par qui est béni. Un fils est né. Cela se passe très vite. Vous voyez au verset 13, ce n'est pas une surprise que Boaz épouse Ruth, ça se préparait déjà un petit temps. Mais ça va très vite, c'est décrit très rapidement. Il devint sa femme, il s'unit à elle, l'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte. Alors, c'est le Seigneur qui décide, n'est-ce pas? C'est le Seigneur qui décide si quelqu'un va devenir enceinte ou pas. Ruth, pour rappel, avait été mariée auparavant, plusieurs années, mais elle n'avait pas eu d'enfant. Elle épouse Boaz, qui est un homme plus âgé, on ne sait pas quel âge il avait, mais quand même plus âgé, et maintenant, elle devient mère. Et puis très rapidement, à la fin du verset, on sent vraiment que en fait, l'auteur veut arriver vers le fils qui vient. C'est lui qui va être un peu le centre de notre attention dans ces derniers versets du livre. Elle mit au monde un fils. On saute 9 mois et la couche. C'est le début de l'histoire de la bénédiction. Et pourtant, les bénédictions ont été présentes tout au long du livre. La semaine passée, après notre prédication de Léon, on avait chanté ce chant qui dit ceci. « Quel repos céleste, tu conduis mes pas, tu me combles de tes richesses. Dans ton grand amour, chaque jour, tu sauras déployer envers moi tes tendresses. » C'est ce que Dieu a fait pendant le livre de Ruth. Qui est béni? D'abord, Boaz est béni. Un petit retour en arrière, chapitre 2, verset 4. Et Boaz vint de Bethléem, il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Et ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Quelle réaction inattendue, n'est-ce pas? Les serviteurs travaillent dur, ne maudissent pas leur patron. Et lui, dans sa grosse Mercedes, là, qui vient, et nous, on doit travailler jusqu'à 65 ans. Il y a eu des émeutes pour moins que ça. Non, le bon rapport qui existe entre les employés et le patronat, représenté par Boaz, là, c'est quelque chose de si fort qu'ils veulent que Dieu lui fasse du bien. Que l'Éternel te bénisse. Et puis, un peu plus tard, chapitre 2, toujours, mais verset 20. Maintenant, c'est Naomi qui parle. Naomi dit à sa belle-fille, « Qu'il soit béni de l'Éternel, qui garde sa bonté pour les vivants comme pour les morts. » Elle est en train de bénir Boaz. Ces phrases de bénédiction ne sont pas anodines. Dans la Bible, elles ont vraiment du sens. Choses qui sont prononcées comme des bénédictions s'accomplissent selon la volonté de Dieu. Donc Boaz est béni. Et il est béni en devenant père de ce petit garçon. Mais Ruth est bénie également. Considérez à nouveau, chapitre 1, verset 9, les paroles de Naomi. « Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Cette bénédiction, cette prière qu'elle avait dite au premier chapitre, s'accomplit au chapitre 4, « Marié et dans le repos » dont on a parlé la semaine passée. Boaz lui-même dit à Ruth ceci au chapitre 2, verset 11, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Bénédiction. Chapitre 3, verset 10. C'est toujours le même Boaz qui parle à Ruth. « Sois béni de l'Éternel, ma fille. » Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Ces bénédictions, voyez-vous, qui ont été dites plus tôt dans le livre, sont en train de s'accomplir dans ces derniers versets du chapitre 4 du livre. Est-ce que vous vous rendez compte de l'abondance de la bénédiction. On connaît tous des jours comme ça où tu ouvres le frigo et tu vois une tranche de fromage, une pomme, et puis dans le tiroir à légumes, il y a une carotte qui reste. Et le frigo est vide. Mais on sait aussi ce que c'est quand on a fait les courses et que le frigo est rempli. Il y a des jus de fruits, il y a des desserts, il y a des légumes, il y a de la viande, il y a des œufs. Et quand cela nous parle concernant notre situation, quand nous considérons notre vie, nous pouvons penser que nous sommes à peine bénis. Oui, si je regarde bien, je pourrais trouver l'une ou l'autre bénédiction dans ma vie. Mais en fait, nous sommes en réalité bien bénis. Le frigo de bénédiction est rempli. Alors depuis que certaines personnes enseigne, propage la théologie de la prospérité, nous sommes un peu frileux en tant qu'évangéliques de parler de bénédictions. Mais il y en a. Alors je sais que les bénédictions ne sont pas toutes des bénédictions matérielles, mais notre bon Père Céleste pourvoit. Il pourvoit notre nourriture, il pourvoit nos vêtements selon sa promesse. C'est pourquoi nous le remercions, n'est-ce pas, lorsque nous avons un repas à prendre. Il nous donne aussi des relations, des familles, des amis, des frères et sœurs dans l'Église. Ce sont aussi des bénédictions. Aucun chrétien ne peut dire « Ah, Dieu ne m'a pas béni ». Et puis, il y a une multitude de bénédictions spirituelles. La Bible dit que Dieu, notre Père, nous a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ. Ça veut dire que si tu es en Christ, tu es béni. Nous sommes bénis. Naomi est bénie. La dernière fois que j'ai prêché ici, apparemment, j'ai confondu parfois Ruth et Naomi. J'ai dit parfois Naomi quand je devais dire Ruth, et que personne l'ont peut-être remarqué. C'était une erreur. Alors on a l'impression que ça, c'est ce qui est en train de se passer au chapitre 4, au verset 14. Quand vous avez lu cela, les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat. » On aurait pensé qu'elle dirait ça plutôt à Ruth. Verset 16, « Naomi prit l'enfant, le serra sur sa poitrine et l'éleva. » Tu ne veux pas dire Ruth ? Verset 17, les voisines lui donnèrent un nom en disant, « Un fils est né à Naomi. » Elle a un fils. Et évidemment, ça s'est délibéré que le Saint-Esprit a inspiré cela, cette déclaration et puis ce registre. Elle a un fils. Elle ne pensait pas avoir un fils. Maintenant, elle a un fils. Et sa belle-fille est meilleure que sept fils, selon le verset 16. Quelle grâce! Laissons-nous à nouveau surprendre par la grâce. Parce qu'on n'aurait jamais fait ça pour Naomi. On peut comprendre pour Boaz qu'il soit béni, patron bienveillant, généreux, qui veut faire les choses de manière correcte. Oui, on peut comprendre ça. Je pense qu'on peut comprendre cela pour Ruth, la belle-fille aimable et fidèle qui veut aider sa belle-mère en travaillant pour elle. Alors, les gens pensent souvent qu'on mérite son jour de chance. Ce n'est pas vrai, bien entendu. Elle a reçu la grâce. Mais on pourrait trouver ça normal. La surprise est que Naomi soit bénie. Elle n'a pas convaincu jusque-là. Elle était partie du pays promis quand ça devenait difficile. Elle avait encouragé ses fils à épouser des femmes non-croyantes. Elle avait découragé ses belles-filles à revenir avec elle au pays promis. Elle avait découragé ses filles de la suivre. Et puis au chapitre 3, on se souvient que son plan n'était pas très clair. Qu'est-ce qu'elle voulait vraiment ? Eh bien, le Seigneur n'arrête pas de faire preuve de bonté et de grâce envers les gens. La bienveillance de Dieu est telle qu'il va vers les femmes et les hommes qui ne le méritent absolument pas. Et c'est tellement encourageant. C'est pourquoi si tu es en train de penser que jamais Dieu ne t'aimerait, toi, la personne qui a fait du mal, tu as tellement été décevante auprès de Dieu, tu dis certainement Dieu ne m'aimerait pas, Dieu ne voudrait pas de moi dans son royaume. Eh bien, j'ai beaucoup plus d'espoir pour toi que pour ceux et celles qui diraient « Ah, je le mérite bien, je suis quelqu'un dont Dieu approuve certainement. » Attention, le fait que tu n'es pas aimable n'est pas un obstacle pour l'amour inconditionnel de Dieu. Et la personne de Naomi devrait être un grand encouragement pour toi. Dieu a montré sa faveur déjà, dans son cas. Quel exemple de la bienveillance de Dieu. Tout simplement, Dieu aime bien faire du bien. Le plan du Seigneur est si bon. Et sa bénédiction est si bonne. Les paroles de Naomi alors semblent bien ridicules quand on connaît la fin de l'histoire. Vous vous souvenez ce qu'elle avait dit au chapitre 1 ? Imaginez comment Dieu entendait ses propos. Difficile de se mettre à la place de Dieu, bien entendu, on doit faire attention à cela. Mais imaginez comment Dieu entendait ce qu'elle disait au chapitre 1. Elle disait « Je ne peux pas vous donner un mari ». Et Dieu, sans doute, est en train de se dire « Mais le mari ?» Je vais le pourvoir. Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris ? Disait-elle au chapitre 1, verset 11. Et puis à la fin, Naomi a un fils. Oui, bien sûr, c'est différent. C'est Ruth qui va avoir un mari. Et Ruth qui va avoir un fils. Mais Naomi va avoir un fils. Ce qu'elle jugeait impossible au départ, ça se réalise au chapitre 4. Dieu, dans sa toute-puissance, ne voit pas les obstacles comme nous les voyons. Il veut qu'on se souvienne de sa bonté. Frères et sœurs, cela nous enseigne que nous ne devons pas faire dépendre la bonté de Dieu à sa réponse à une de nos prières. Si nous prions pour une chose, bien sûr nous prions pour beaucoup de choses, mais parfois nous prions pour quelque chose dont on veut vraiment que Dieu le fasse. Et on dit dans nos prières, ah, Dieu, si tu es bon, tu vas faire ça. Ou même, on risque de penser, si Dieu ne fait pas ça, c'est qu'il n'est pas bon. Non, mes amis, Dieu a fait ses preuves. Il a fait ses preuves à l'époque de Ruth. Il a fait ses preuves dans notre vie, n'est-ce pas ? Déjà, en nous pardonnant en Christ. Sa bonté n'est plus à remettre en question, quoi qu'il arrive. Prenons du temps pour emmagasiner cela, la bonté de Dieu envers les personnes qui ne le méritent pas. Et c'est pour cela qu'on arrive au chapitre 4, verset 14, et qu'on a cette dernière personne qui est bénie. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat. Que son nom soit célébré en Israël. » C'est l'expression, quand on dit « le Seigneur est béni », c'est l'expression pour dire que nous disons du bien de Dieu et que nous reconnaissons sa bonté. Et en Éphésiens, nous retrouvons les mêmes idées. Qu'est-ce qu'il est écrit ? « Béni soit le Dieu et Père. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. » Ces mêmes idées, n'est-ce pas ? Bienveillance, bonté de Dieu. « Pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. » Nous voyons là l'aboutissement du modèle de Boaz. Jésus, le bien-aimé, qui nous donne la bienveillance de Dieu et ses bénédictions. Nous sommes adoptés dans sa famille. Et à quoi est-ce que ça conduit ? Qu'est-ce que ça nous amène à faire ? À célébrer sa glorieuse grâce. Dieu nous donne de ses richesses et nous lui donnons de notre adoration. Nous lui donnons notre adoration parce qu'il le mérite. Dieu est bon. Et lorsqu'il nous bénit, nous devons répondre par les remerciements, la louange, l'adoration et la bénédiction. Mais dans la deuxième partie, nous sommes surpris aussi. Nous sommes surpris par ce qui vient après. Ce livre nous permet de comprendre la bonne nouvelle de la Bible, parce que dans un sens, ce qui vient après le livre de Ruth, c'est l'Évangile. Dans l'Évangile de Matthieu, Ruth sera mentionnée à nouveau. La bonne nouvelle qui va être mise en œuvre par Dieu. Alors, il n'y a pas l'Évangile selon Ruth, mais si on posait la question à Ruth, quel est l'Évangile selon toi ? Qu'est-ce qu'elle dirait ? Elle dirait, peut-être, je peux te dire que quelqu'un d'étranger aux promesses de Dieu à Israël peut être racheté. Quelqu'un qui au départ était nulle part, pas informé, en train d'adorer un faux Dieu dans une terre éloignée, peut venir connaître le vrai Dieu et recevoir ses bénédictions pour l'adorer en esprit et en vérité. Oui, ça c'est la bonne nouvelle. Mais pour cela, il faut une réponse et il faut une personne. Une réponse de notre part, parce que Dieu nous demande de retourner à lui, comme il était question, n'est-ce pas, au chapitre 1. Retourner et de croire. Et Ruth était un bel exemple de cela, parce qu'elle dit, « Ton Dieu sera mon Dieu. » Et c'est ce que nous devons faire également. Peut-être que papa et maman croient en Dieu, et c'est le moment pour dire, ton Dieu ne va pas juste rester ton Dieu, mais non, il va être mon Dieu, Dieu de ma vie, Dieu que j'adore, Dieu que je sers. Ça, c'est la réponse. Et puis, il y a une personne, c'est le Rédempteur. Tout comme Boaz, il y a un Rédempteur qui agit pour nous sauver, qui nous donne une place, qui nous donne un héritage. Que son nom soit béni. Alors, je sais que nous croyons à l'Évangile pour nous-mêmes, mais peut-être avons-nous perdu un peu de confiance en l'Évangile pour ce qui est de son fonctionnement aujourd'hui auprès des autres. Commençons à douter que cet Évangile est vraiment la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous voyons des personnes qui ne sont pas nées dans des familles chrétiennes, qui n'ont pas d'appétit spirituel, qui semblent confuses ou perdues. Et on se dit, est-ce que ça peut vraiment marcher ? Pour elle, mon voisin qui a une autre religion, mon collègue qui ricane quand je parle du fait que je vais à l'église, ma voisine qui semble vivre pour toute autre chose, eh bien oui, cette bonne nouvelle, si elle l'entend, Ma voisine peut y croire, elle peut être sauvée, elle peut être récupérée, comme Ruth l'a été. Nous devons avoir confiance en l'Évangile, comme puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, le juif comme le non-juif, dit la Bible. Après les quelques versets qui se concentrent sur Naomi, l'attention est attirée vers le bébé, parce que le bébé introduit ce qui vient après. Laissons-nous surprendre par cela. Si ce livre se terminait avec le verset 17, on penserait que, oui, c'est une belle histoire d'amour. Voici comment une veuve étrangère a pu être en train de trouver un mari, ne plus rester veuve. Elle a pu aider une autre veuve, retrouver le soutien de sa vieillesse, le réconfort, verset 15. Petite histoire encourageante dans la Bible, pour ceux qui sont seuls peut-être. Mais la raison pour laquelle le livre de Ruth figure dans la Bible, c'est ces derniers versets. La section tout à la fin nous montre en fait pourquoi ce livre est là. Parce qu'on a Obed, le fils de Ruth, et puis ça va jusqu'à David. En fait, il y a toute une lignée. Cette généalogie, elle n'est pas complète. Si on dit par exemple que Naomi a un fils Obed, on comprend qu'on peut sauter parfois des étapes dans la généalogie. Et c'est le cas aussi dans cette généalogie des versets 18 à 21. C'est un peu comme un train hissé qui ne s'arrête pas à toutes les petites gares, mais qui s'arrête aux gares principales. Mais ici, en fait, on relie le passé de Boaz, Pérez qui était descendant de Juda, vous vous souvenez, le fils de Jacob. Et on parle de Rachel et Léa au verset 11. Des siècles auparavant, elles avaient donné naissance au fils de Jacob. Et puis on suit la lignée. On arrive à Boaz. On va à Obed, verset 21. Et puis on va jusqu'à David. Ce qui signifie qu'un roi va venir de cette lignée extraordinaire. Ça nous fait réfléchir. On se rend compte que Dieu est souverain. Bien sûr, c'est le message de beaucoup de livres de l'Ancien Testament. On peut voir néanmoins que sa souveraineté s'exprime différemment dans les différents livres. Dans le livre de Juges, on voit que Dieu est souverain en tant que juge, malgré le chaos qui règne dans son peuple. Chaos moral, chaos politique. Dans le livre de Daniel, on voit que Dieu est souverain sur les nations, les grands empires, sur les rois, les puissants de ce monde. Mais ici, dans le livre de Ruth, on voit que Dieu est souverain sur les détails d'une vie ordinaire, une vie comme la nôtre. Parce qu'à travers les rebondissements de situation, Boaz, un homme sans descendant, rencontre Ruth, une veuve sans enfant, et Obed est né. Et puis David naîtra. Et lui, c'est même pas le plus aîné des frères, c'est le plus jeune de la fratrie. Et pourtant, à Bethléem, ce roi inattendu, choisi parmi son peuple, sera choisi par Dieu et oint par Samuel. Parfois, nous trouvons des photos ou des portraits de nos ancêtres et nous voyons qu'il y a une ressemblance. Donc, la photographie existe depuis quelques années quand même. Nous avons trouvé, par exemple, une ressemblance familiale entre mon frère et son arrière-grand-père. Évidemment, en tant que jeune homme, on avait ce portrait de cet arrière-grand-père, son âge, on voit vraiment une ressemblance familiale. Et donc, depuis le livre de Ruth, nous attendons quelqu'un qui vient plus tard, qui ressemblera à son ancêtre. Si vous êtes juif, dans les siècles qui viennent après Ruth, vous attendez une autre femme comme Ruth, la servante de Boaz. Ruth n'est pas la dernière femme de valeur dans la Bible. Il y en a d'autres. Jusqu'à des siècles plus tard, quand une autre femme, Marie, apprend qu'elle va avoir un bébé, un garçon. Et comme au verset 13 de notre chapitre 4, l'Éternel permit qu'elle devienne enceinte. Et Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse envers moi. » C'est au chapitre 1 de Luc. Et nous attendons un autre fils, comme Obed. Je ne t'ai pas dit jusque-là, mais Obed signifie un serviteur. Il est nommé ainsi par les voisines, un peu étrange que les voisines donnent un nom au fils de Ruth et de Naomi, mais bon, bref, un serviteur, parce qu'il va servir la famille, il va servir pour l'héritage, un serviteur qui donnera le réconfort et le soutien à son peuple en Israël. Mais aussi, s'il est fils de David, ça signifie qu'il sera un roi. Alors on cherche quelqu'un. Avec le profil de ses ancêtres, il doit être serviteur et roi. Il n'y a pas une masse de candidats. Le fils de Marie, né à Bethléem, un descendant direct de David, sera plus grand que David, bien entendu. Alors nous n'avons pas tous un rôle si important dans l'histoire du monde, je sais. Nous ne sommes pas Ruth, Marie, Boaz, etc. Mais néanmoins, ce panorama de la Bible nous permet de comprendre une chose par rapport à notre propre vie, notre petite vie, si je peux dire ça comme ça. Que nous sommes impliqués dans une histoire qui a une fin, qui est noble. Et cette histoire, elle est éternelle, elle est grandiose, elle est remarquable. Et donc nous devons avoir à cœur de faire notre petite tâche, notre travail, de jouer notre rôle, même si c'est petit, court, infime, pour entrer dans le plan éternel de Dieu. Parce que Ruth et Boaz n'avaient pas en fait comme ambition qu'ils allaient être clés dans l'histoire du monde. C'était simplement un homme en train de travailler dans son champ et une femme en train de moissonner pour pourvoir à sa belle-mère. Ils se sont mariés selon la volonté de Dieu. Leur petite vie s'inscrivait dans son plan. Et c'est une aide pour nous lorsque notre vie semble insignifiante. En soi, ce n'est pas grave que notre vie est insignifiante. On est là pour quelques décennies et puis on s'en va. Mais au lieu de dire « Dieu a un plan merveilleux pour ta vie », on devrait dire « Dieu a un plan merveilleux maintenant que ta vie s'inscrive dans son plan ». Vous voyez, ce n'est pas nous le centre. Le principal, c'est d'appartenir au Seigneur, donc de jouer notre part dans ce projet éternel, qu'est le salut des nations. Mais ça devient plus fort plus tard. Vous le savez peut-être, différents livres ont été utilisés dans différents moments de l'histoire, à différentes occasions. À certaines fêtes, on relisait des livres de l'Ancien Testament, fêtes juives, je parle. Par exemple, à Purim, on lisait le livre d'Esther. Et chaque année en Israël, c'était la coutume de lire, de relire le livre de Ruth. Et c'était à la Pentecôte. Ben oui, vous allez dire c'est normal. La Pentecôte, c'est la fête de la récolte. Et ici, il y a plein de récoltes dans l'histoire de Ruth. Oui, mais en relisant le livre de Ruth, le Seigneur préparait son peuple à la fête de Pentecôte où tout allait vraiment changer. Pas une simple répétition des fêtes habituelles de la récolte, mais à la Pentecôte, après la résurrection de Jésus-Christ. Le Seigneur a déversé sa bénédiction abondante, le Saint-Esprit. Et il va venir dans les cœurs des disciples en Israël. Une grande récolte va avoir lieu pour le Seigneur ce jour-là. 3000 âmes sauvées pour lui. Et cela va déborder l'Israël vers les peuples des autres nations qui sont réunis, des étrangers qui sont réunis à Jérusalem ce jour-là. Ruth n'était qu'une seule personne, une étrangère, qui a fait partie du peuple d'Israël. Mais à partir de ce jour-là, la Pentecôte ouvre les portes vers tous ceux qui mettront leur foi en Jésus-Christ pour qu'ils soient ajoutés à sa famille. Ça, c'est ce que le livre de Ruth nous enseigne. Ça, c'est une surprise. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Prions. Oui, Seigneur, nous sommes face à l'énormité de ton plan parce que il y a 3000 ans environ, cet homme et cette femme étaient en train de se marier sans se douter de ce qu'il allait venir après. Et pourtant, toi, tu savais tout dès le départ et tu les as inscrits dans ton peuple, dans ta généalogie. Nous voulons aussi te remercier, Seigneur, parce que notre vie, même si elle est courte, insignifiante, elle compte pour toi. Nous pouvons faire des choses qui ont une valeur éternelle. Nous pouvons nous rappeler ces choses. Nous pouvons propager ta bonne nouvelle. Nous pouvons aider à ce que d'autres personnes vienne à te connaître. Donne-nous, Seigneur, donc, d'être encouragés et fortifiés aujourd'hui, de ne pas oublier ta grâce et ta bonté, tes bénédictions envers nous, d'être un peuple reconnaissant et qui te loue, parce que tu es notre Dieu, le Dieu vivant, le Dieu qui a créé le monde et qui veut de nous dans son royaume. Au nom de Jésus. Amen.
Alors je vais vous inviter à vous lever pour un dernier chant, ta bienveillance. Après quoi, je vous lirai juste un dernier passage et puis nous pouvons nous retrouver pour la suite de ce culte au sous-sol pour passer encore un moment ensemble. Alors un dernier passage dans l'Écriture, Ésaïe 55, versets 6 et 7. « Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et que l'homme injuste ses pensées. qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui, qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Bon dimanche à chacun.